Les enjeux internationaux.
Il y a aussi des dilemmes à l'international, Thierry Garcin, bonjour.
Et lequel, avec l'évolution de Boko Haram et les moyens évidemment de lutter contre le groupe terroriste, notre invité Hamzat Boukhari Yabara, vous êtes historien d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, le groupe terroriste est particulièrement cruel, on le sait. Il vient de se choisir un nouveau chef, un Camerounais, Bana Blachera, si ça se prononce comme ça, homme de terrain et organisateur. On connaît les méthodes sanguinaires de Boko Haram, les massacres, les prises massives d'otages. Encore il y a quelques jours, des raids éclairs particulièrement organisés, des égorgements de femmes en série. Alors, ce sont des fureurs sanguinaires, mais beaucoup de questions se posent par-delà ces événements abominables. C'est évidemment à quel stade se trouve Boko Haram, à quel stade de son évolution, comment est-il organisé ou réorganisé, qui le finance et comment se finance-t-il, où trouve-t-il tant d'armes dont une partie provient de l'effondrement de la Libye en 2011, ses appuis éventuels auprès des populations, son allégeance à l'État islamique en mars 2015, il s'appellerait province ouest-africaine de l'État islamique, ses capacités de déstabilisation, mille autres questions, et bien sûr depuis 2009, il semblerait que l'insurrection de Boko Haram aurait donc créé la mort de 20 000 personnes. Et puis il y a la question des déplacés. Hamzat Boukhari Yabara, vous êtes l'auteur d'ailleurs d'un ouvrage intitulé Nigeria, paru en 2013 chez l'éditeur belge De Bock, dans la collection Monde arabe, monde musulman, dirigé par Mathieu Guider. Alors, comment décrire ce stade auquel est arrivé Boko Haram ?
Eh bien, je pense qu'il faut remonter déjà aux origines du mouvement qui, au départ, en fait, avait vraiment une logique nationale. Il s'agissait de renverser l'État fédéral et du coup de travailler d'une certaine manière avec des dirigeants politiques du nord musulman du Nigeria. Et puis progressivement, on voit bien que le groupe a pris une dimension déjà transnationale en menant des attaques au Tchad, au Niger et au Cameroun. Et aujourd'hui, avec donc d'une part... Donc l'allégeance à l'État islamique et d'autre part le profil de celui qui serait visiblement le nouveau chef de Boko Haram, on sent qu'on rentre déjà dans une logique de terrorisme international. Donc c'est assez particulier de voir cette évolution du mouvement qui au départ était vraiment un groupuscule sectaire au nord du Nigeria et qui aujourd'hui rentre un peu dans ce cadre du terrorisme international. Et dès le départ, il y a toujours eu des deux explications sur Boko Haram. Est-ce qu'on a affaire à un mouvement local, entre guillemets, qui s'appuie sur la pauvreté et les conditions socio-économiques dans le nord du Nigeria, ou est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui était dès le départ voué à rejoindre cette grande nébuleuse, entre guillemets, djihadiste internationale. Donc là, on a plutôt l'impression que on va vers une véritable internationalisation de cette menace.
Et vous penchez vers quelle hypothèse, c'est-à-dire mouvement local spécifiquement nigérian, ou au contraire mouvement régional relativement internationalisé, profitant évidemment de l'anomie du désordre dans cette région du lac Tchad, donc qui regroupe à la fois le Nigeria et le Cameroun, et puis évidemment le Niger et le Tchad.
Alors, au départ, idéologiquement, c'était l'idée de recréer le califat de Sokoto, qui était effectivement à mi-cheval sur les quatre pays autour du bassin du lac Tchad. Mais on s'est rendu compte très rapidement que, d'une part, Boko Haram n'est pas dans le système classique des rébellions africaines. D'habitude, les rébellions déstabilisent un pays d'un point de vue militaire, et lorsque le pays est déstabilisé, rentre dans le jeu politique à travers des négociations pour arracher une partie de pouvoir. Et Boko Haram ne l'a jamais fait. Le pouvoir nigérian s'est ouvert plusieurs fois des négociations. Ils disposent donc des lycéennes de Chibok qui sont une arme de négociation majeure. Ils ne l'ont jamais utilisée. Donc on voit bien qu'ils ont d'autres objectifs qui dépassent finalement l'État nigérian. Et de son côté, le Nigeria, qui était davantage préoccupé par les problématiques au niveau du delta du Niger, a d'une certaine manière surmonté l'année dernière, qui était la grande année très importante avec les élections. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être un pays comme le Cameroun qui, en 2018, aura des élections, qui a tout à fait intérêt à régler le plus tôt possible cette menace parce qu'elle prospère sur un certain abandon politique des populations. Donc là encore, Je crois qu'il y a un climat politique dans cette région et également une réponse inadaptée des États à la menace qui favorise d'une certaine manière la propagation de ce mouvement qui rejoint donc ce qui se passe actuellement en Libye, au Nord-Mali, voire même vers la Somalie.
Oui, alors ceci sans rapport avec cela, on voit bien qu'en Syrie, et je dis bien en Syrie, et en Irak, la seule réponse militaire est largement à la fois inefficace et lacunaire, et que c'est plus l'évolution des sociétés, des systèmes politiques, etc., qui est un terreau sur lequel travailler.
Oui, alors du côté donc des États africains, il y a eu un certain nombre d'erreurs de stratégie. Ça fait déjà 2 ans qu'on a déclaré la guerre totale à Boko Haram. C'était lors de la réunion de Paris de mai 2014. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de stratégie militaire, qu'il n'y a pas de plan de développement économique et social et qu'il n'y a pas de véritable projet politique. Donc on a lancé il y a un peu plus d'un an une force multinationale, mixte, qui regroupe donc les 4 pays plus le Bénin, mais qui est totalement inefficace. On est dans un cas de guerre asymétrique. Et là, on a eu donc récemment donc une offensive de Boko Haram que l'on croyait sur la défensive au niveau de la ville de Bosso au Niger. Et on a vu les États africains, notamment le Niger, annoncer déjà le plan de leur contre-offensive. Or, on sait qu'on est face à un mouvement qui est dans l'anticipation, qui est dans la mobilité, et on a véritablement le sentiment que la réponse militaire n'est pas du tout adaptée et que l'aide de la communauté internationale, que ce soit de la France ou des États-Unis en termes de renseignement, n'est pas non plus adaptée ou suffisante.
Ou le rôle de l'ONU aussi, qui fait ce qu'elle peut, mais qui fait peu, mais ce n'est pas une critique. Et je vois un article, par exemple, c'est sur les forces militaires, on va dire entre guillemets, militaires de Boko Haram, un article du Monde il y a vraiment quelques jours qui dit la secte islamiste avait aligné à Bosso, justement au Niger, où il y a eu des horreurs, des moyens militaires dignes d'une armée nationale obligeant les militaires nigériens à battre en retraite pour se réorganiser. C'est un souci.
Oui, c'est un souci, d'autant plus que le nouveau chef serait donc l'ancien responsable de la logistique, des filières d'armement, donc sans doute quelqu'un qui a des connexions à ce niveau-là, qui peut réarmer militairement le mouvement, et peut-être pas idéologiquement, mais qui va en tout cas s'appuyer sans doute sur le maintien donc des allégeances beaucoup plus à un islam wahhabite. On sait qu'il a sans doute donc tout le contrôle des réseaux de trafic, de corruption. La particularité de Boko Haram par rapport à l'État islamique, c'est qu'on n'est pas réellement dans un État, dans une structure en mesure de gérer des territoires. Il n'y a pas, par exemple, ce contrôle de la manne pétrolière que l'on pourrait trouver dans les rébellions au niveau du Sud. Mais il y a néanmoins une capacité à avoir des armements lourds qui, en partie, proviennent donc des stocks qui avaient été
emmagasinés par la Libye de Kadhafi, notamment
par la Libye de Kadhafi, mais également par les armées occidentales ou par d'autres réseaux qui, dans cette région où il y a énormément de conflits, ont toujours eu l'habitude finalement de laisser des armes qui sont parfois tombées dans des mains peu recommandables.
Voilà, et puis on n'a pas le temps, mais je pense que c'est important pour vous dans votre analyse, pas le temps de parler des déplacés de Boko Haram. Ils représenteraient selon l'ONU 9 200 000 personnes en manque de nourriture, vivant autour du lac Tchad et dans d'immenses camps de fortune, et les récits des journalistes sont tout à fait accablants, c'est-à-dire c'est aussi une désorganisation des sociétés en profondeur.
Oui, c'est une désorganisation des services de l'État, des services publics, et je crois qu'il y a quand même une déception par rapport au premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Mohamed Bouhari, c'est-à-dire qu'il n'a pas relancé en place les mécanismes qui permettent refleurir donc le nord du Nigeria d'un point de vue économique, en sachant qu'on est dans une région qui a toujours été un poumon économique. Ça aussi, c'est important à soulever.
Merci beaucoup Hamzat Boukhari Yabara, donc École des hautes études en sciences sociales, et nous prolongeons cette réflexion demain avec Pierre de Sonnard-Klins, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, à propos des guerres ethniques, interethniques, notamment dans cette zone.